pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour et bienvenue sur Principe Actif. Nous sommes 4 jeunes, Luan, Tom, Mohamed et moi Flavie. Nous avons entre 13 et 15 ans. Venons de différents collèges et sommes réunis au dispositif Relais. On fait de la radio et on a choisi comme sujet le harcèlement. Au programme, il y aura des micro-trottoirs et une interview avec une référente harcèlement départementale. On vous laisse découvrir le rendu de notre travail.
Quelle définition avez-vous du harcèlement ?
Harcèlement ? Oui, parce que je suis à la télé, les jeunes sont harcelés dans les établissements, dans les lieux de sport, partout. Des fois, c'est dans les bus, donc ça les fait frustrer de rester à la maison, de se reconfuser en eux sans que les parents ne sachent. D'autres se font suicider. Voilà, quand je suis ça, moi, je suis révoltée, moi, ça me fait mal. Donc, il faut que les jeunes essayent de parler aux parents, à leurs professeurs, à leurs principaux des écoles, pour qu'on essaie. Mais il y a des parents aussi qui interviennent, mais c'est tard. C'est tard parce que quand vous venez nous dire à la maison, moi, je suis grand-mère, bon, j'ai eu des enfants. Quand vous venez nous dire, non, on peut prendre ça comme ça à la légère, alors que vous vous êtes dérangé. Et finalement, c'est la suicide et c'est là.
Quelle définition j'ai du harcèlement ? Le harcèlement, bah, c'est quand on porte atteinte aux libertés des personnes, pour moi. Voilà, chacun a le droit de vivre comme il veut, et selon les principes de nos sociétés. Et voilà, à partir du moment où on intervient, qu'on veut imposer quelque chose, pour moi, c'est du harcèlement. Voilà.
Une forme d'agression vis-à-vis d'autres personnes, quoi.
Je pense que c'est quand il y a de la violence envers autrui et que c'est mal vécu par la personne qui en est victime. Bah, de toute façon, c'est une victime, hein, comme je l'ai dit. Donc à mon avis, je pense que ça peut mener à vraiment différentes issues, et elles peuvent être fatales, parce qu'il y a beaucoup de morts à cause du harcèlement.
Ben, c'est agresser verbalement, même physiquement, ouais, une personne, que ce soit sur sa couleur, ses origines, ouais, sa religion... Ouais, ouais. Sur son physique, voilà.
Alors le harcèlement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, et il y a le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. C'est toute forme, je dirais, de pression sur quelqu'un contre sa volonté, à n'importe quel âge que ce soit. Alors ça peut être aussi dans le travail, le harcèlement lié au travail, par un chef, et puis le harcèlement sexuel, où ça peut être quelqu'un... un monsieur qui trouve une femme jolie et qui lui fait du harcèlement. Voilà, c'est ça ma définition.
C'est quelque part ne pas arrêter d'embêter les gens, ouais, d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Grosso modo, c'est à peu près ça.
Bah, c'est des insultes, des moqueries. C'est quelque chose qui revient, en fait, qui revient quotidiennement, tous les jours, tout le temps. Voilà, c'est ça. Ça peut être des moqueries, comme ça peut être des gestes physiques. Ouais. Voilà, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement.
Moi, je trouve ça dégueulasse, en fait. C'est plus simple d'aller voir la personne, de lui dire, et voilà, on lui fout la paix, quoi.
Harcèlement, pour moi, c'est plus physique.
Plus physique ?
Ouais, c'est plus physique. Ouais. Harcèlement, pour moi, c'est plus physique.
Bah, la méchanceté.
Ouais.
Bah, contre les élèves, contre tout le monde, quoi. C'est mauvais, c'est pas bien.
C'est quelque chose de très désagréable, bien entendu. C'est-à-dire, on embête les gens qui sont tranquilles et on les empêche de vivre tranquillement.
Du harcèlement, bah, normalement, ça devrait pas être autorisé, et puis c'est tout. Hein.
Ouais.
Ni autorisé, ni condamné.
Avez-vous été témoin ou victime du harcèlement ?
Jusqu'à présent, non. Je crois que c'est un sujet qui est plutôt lié, le harcèlement, je crois que c'est plutôt lié aux femmes, hein, c'est, qui en sont victimes. Peut-être qu'il y a du harcèlement chez les hommes, mais moi, personnellement, j'en ai jamais été victime.
Non, je n'ai jamais été victime. Je n'ai jamais été témoin d'une victime. Non, je n'ai jamais
fait ça. Ouais, je sais que quand j'étais à l'école, on s'est souvent moqué de moi, mais sans, moi, je sais que j'y ai pas prêté attention. Je pense que aujourd'hui il y en a plein qui souffrent et qui osent pas le dire. Et je pense qu'il faudrait mieux en parler, parce que moi, quand j'étais vraiment dans la galère, à cause de tous mes soi-disant potes, j'en ai parlé et ça m'a beaucoup aidé.
Non, personnellement, j'ai jamais assisté à un harcèlement quelconque, que ce soit sur moi ou autour de moi.
Ouais.
Alors moi, j'ai pas été ni témoin ni victime, j'en suis très contente. Mais c'est vrai que je sais que beaucoup de personnes ont été victimes. Je crois que la proportion doit être de 10%. Il me semble, en France.
Témoin, si, j'ai vu quelques commerçants qui n'étaient pas très très aimables régulièrement avec leurs employés. Ne pas trouver plaisir à harceler les autres, parce que les harceleurs ont plaisir à faire ça,
ouais.
Je pense.
Ouais.
Bon, j'ai jamais été témoin de harcèlement ou victime, enfin témoin de très loin, et on a pu intervenir et essayer de résoudre les problèmes.
Non, j'ai eu cette chance-là, mais je connais des gens de mon entourage, oui, malheureusement.
Alors, malheureusement, dans les deux cas, j'ai été victime.
Ah ouais ?
Alors, bon, je vais être honnête, hein, j'étais jeune. Hein. J'ai été harcelé, pas de problème, j'assume.
Peut-être quand j'étais petit. Mais non, ça va. Évreux est une ville plutôt calme et paisible.
Non, jamais, non, ni dans ma famille, personne, ni dans mes petits-enfants n'ont jamais été harcelés.
Ouais.
Bonjour, je m'appelle Tom, élève du dispositif Relais. Je vais vous définir le harcèlement, ses caractéristiques et effets. Pour faire simple, le harcèlement, c'est une violence répétée, qu'elle soit morale, physique ou verbale, ce qui peut provoquer comme effet de l'anxiété, de la perte de confiance en soi qui amène à la perte de confiance en l'autre, de la peur, de l'isolement, de l'insomnie. Les effets peuvent devenir physiques comme la sensation de boule au ventre, l'eczéma, des plaques rouges, de l'urticaire, et trop de stress accumulé peut provoquer des ulcères. Et malheureusement, beaucoup d'autres qui amènent à des situations extrêmes comme l'automutilation, la dépression, la fugue, le suicide. Sur ce, je vous laisse avec le début de l'interview de Madame Antounès.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je suis donc Olga Antounès, avec plusieurs titres. Je suis référente départementale harcèlement, mais je suis également conseillère technique service social de Monsieur l'inspecteur d'académie et responsable des assistants sociaux qui sont sur les collèges et lycées, sur tout le département. Voilà.
Quel est votre métier ?
Donc, de formation, je suis assistante sociale. J'ai travaillé pendant des années en tant qu'assistante sociale, moi-même, en collège et lycée, sur d'autres départements.
Comment êtes-vous devenue référente harcèlement ?
Alors, je suis devenue référente harcèlement lorsqu'effectivement, les premiers référents harcèlement ont été désignés. Donc, en janvier 2012. À l'époque, nous n'étions pas formés. Enfin, on n'avait pas encore eu les formations, mais nous avions effectivement nous étions chargés de mission.
Quel est le but de cette fonction ?
Alors, le but de cette fonction, je vais peut-être faire un petit rappel historique rapide. En 2010, il y a eu des enquêtes qui ont été faites autour des incidents violents en milieu scolaire. Et les résultats de ces enquêtes ont amené effectivement un constat concernant le fait que beaucoup d'enfants étaient victimes de harcèlement en milieu scolaire, entre élèves. Et donc il y a eu un plan gouvernemental de lutte contre le harcèlement, avec la désignation à l'époque donc de au moins un référent départemental et un référent académique au niveau du rectorat qui pilotait le dispositif et donc coordonnait l'action des référents départementaux. Donc c'était vraiment une toute nouvelle mission, mais très vite il y a eu beaucoup de formations et je dirais de ressources sur lesquelles nous appuyer.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, à la base, je vais être très honnête, je n'ai pas vraiment choisi d'être référente départementale. Il se trouve que de par notre formation d'assistants sociaux à la base, tous les conseillers techniques services sociaux, quasiment sur tous les départements au niveau national, ont d'emblée été choisis comme pouvant assumer cette mission de référent départemental à harcèlement, au regard notamment de notre formation sur la technique d'entretien avec les enfants et avec les familles, et de notre expertise, on va dire, sociale, mais aussi la connaissance qu'on avait des partenaires extérieurs qui pouvaient être un relais pour la prise en charge de ces situations.
D'accord. Pouvez-vous nous définir le harcèlement ?
Alors, le harcèlement, je vais reprendre un petit peu la définition basique. C'est effectivement une... pour moi, il y a la notion de répétition. Déjà, ça, c'est très, très important de prendre en compte la notion de répétition. Ce n'est pas un fait isolé. Et c'est une répétition d'une violence. Donc, c'est une violence répétée. Et elle peut être verbale, physique, morale. Et on peut dire aujourd'hui, puisque ce n'était pas le cas quand en 2012 j'ai démarré, mais très vite on a parlé aussi de cyberharcèlement, c'est-à-dire également une violence qui se développe sur les réseaux sociaux. Voilà.
Pouvez-vous nous définir plus particulièrement le harcèlement moral ?
Alors le harcèlement moral, c'est la base, on va dire, d'insultes, de moqueries répétées, parfois de surnoms. J'allais dire effectivement un surnom qu'on peut donner à un élève ce surnom n'était utilisé que par un ou deux de ses camarades. Ça pourrait peut-être ne pas être très dramatique pour le jeune, et peut-être parfois le jeune peut aussi intégrer ce surnom comme étant son identité, sauf que certains surnoms sont quand même extrêmement blessant, humiliant et répété, l'ensemble, on va dire, de la communauté des élèves va s'approprier ce surnom. Et quand c'est répété 10, 15 fois, 20 fois par jour, effectivement, ça devient une souffrance pour l'enfant.
On sait que c'est difficile d'en parler au collège, peur des autres et des représailles. Existe-t-il un autre moyen d'en parler ?
Bien sûr. Heureusement. Alors, aujourd'hui, dans les établissements scolaires, notamment dans les collèges, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées à l'écoute et au recueil de la parole de l'enfant qui est victime de harcèlement. Mais ça reste effectivement encore très compliqué pour le jeune de se livrer au sein de l'établissement scolaire. Donc, il y a très rapidement, il y a eu un numéro national qui a été mis en place, donc le 30-20, qui est une plateforme où le jeune, comme sa famille ou un de ses proches, peut contacter en conservant l'anonymat. Ça, c'est une possibilité. Il y a, donc, ça peut être pour des conseils. Il y a le site Non au harcèlement qui permet aussi aux jeunes d'aller, on va dire, rechercher des ressources, des informations et des personnes qu'il va pouvoir contacter. Notamment, on a aussi une plateforme académique sur l'Académie Normandie. Et puis nous, au niveau du département de l'Eure, on a mis en place une adresse mail harcèlement27@ac-rouen.fr qui permet aux familles et aux élèves de nous écrire directement sur cette adresse. Alors, normalement, dans les établissements scolaires, au moins le 30-20, c'est une obligation, doit être affichée. L'adresse harcèlement 27, elle n'est pas encore vraiment suffisamment diffusée. Elle est donnée à tous les chefs d'établissement dans le cadre de notre note de service départemental. Moi, je la transmets aux assistants sociaux du département, mais c'est vrai que on ne le voit pas vraiment afficher l'adresse harcèlement 27. Pour autant, aujourd'hui, une famille ou un jeune qui appelle à l'inspection académique et qui prononce le terme de harcèlement est directement aiguillé sur un référent départemental. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus toute seule. J'ai démarré toute seule sur le département, mais aujourd'hui, on est trois.
Première partie de ce long échange avec Madame Antouniès, on rappelle, référente harcèlement sur l'inspection académique pour le département de l'Eure. Personne très intéressante, tu me confirmes, Louane? Toi, oui. Tu as participé à l'interview. Oui. Qu'est-ce que tu en as retiré? Comment ça s'est passé? Parce que là, c'est que la première partie, on a deux encore à venir. Comment ça a été ce moment-là pour toi?
Bah, c'est très très bien passé. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur elle et sur son métier.
Ouais. On rappelle, et c'est tout bête, hein, c'est pas histoire de tiens, je l'ai pas acheté avec des bonbons ni de l'argent, Louane. Ce sujet, c'est vous qui l'avez décidé. En fait, on s'est aperçu que dans le groupe, c'était une question sans moi vous demander trop si vous l'aviez vécu ou non, mais qui vous préoccupait, qui était dans vos remarques, dans votre esprit, dans votre vie. Je trouve qu'elle en parle très bien, Madame Antouniès, de son métier, de ce qu'il faut faire. Hein ?
Ouais.
On écoute la deuxième partie ? C'est plus simple. On l'écoute, elle est intéressante. C'est Madame Antouniès, l'inspection académique.
On trouve que le harcèlement moral est plus présent à l'école, qu'en pensez-vous ?
Alors, moi, je ne m'occupe que de harcèlement en milieu scolaire. C'est important de le dire parce qu'effectivement, il y a d'autres formes de harcèlement. Notamment, on va parler aussi de harcèlement dans les transports en commun, de harcèlement sexuel, de harcèlement au niveau du travail, dans le cadre professionnel. D'harcèlement aussi, on est parfois saisi de situations où le harcèlement est dénoncé de la part d'enseignants vis-à-vis d'élèves, ça, c'est pas nous. Nous, c'est vraiment le harcèlement entre élèves. Donc, je dirais qu'effectivement, comme nous, on n'a que ces situations-là, et on peut constater que depuis 2012, on est en augmentation du nombre de saisines sur le harcèlement. D'ailleurs, je ne sais pas si ça fera partie d'une question, mais le harcèlement au collège a souvent pris son origine au niveau de l'école primaire. Et on est de plus en plus saisi pour des enfants d'école primaire.
Je voulais vous demander, pardon les filles, je coupe, hein, parce que c'est intéressant, Madame Antouniès. Est-ce que justement on a des chiffres? Vous parlez d'évolution.
Oui.
Est-ce que c'est très, très important, cette évolution? Ou est-ce qu'on peut parler chiffres un petit peu, s'il vous plaît, sans nous noyer?
Alors, j'ai pas, très honnêtement, je vais pas avoir les chiffres.
Non, vous ne les savez pas avec vous, mais voilà. Ils sont en augmentation.
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on tourne à peu près à une centaine de saisines par année scolaire. Ça peut paraître peu important comme chiffre, mais ça l'est quand même parce que les situations qui nous arrivent aujourd'hui sont celles qui, justement, on va dire, l'établissement est en difficulté pour gérer la situation. La famille ne se sent pas suffisamment entendue par l'établissement. L'enfant continue à être en souffrance malgré les actions qui ont été mises par l'établissement. Et donc, souvent, les situations qui nous arrivent, c'est celle du 30-20. C'est également celle où le chef d'établissement nous interpelle pour un appui à la gestion de la situation. Donc, je dirais même l'année du confinement, l'année dernière, où le dossier a été, on va dire, à l'arrêt entre mars et la fin de l'année scolaire, nous avions eu 80 saisines à peu près. Voilà. Donc là, on doit être à 108 actuellement. Donc, je dirais que ça va aller en augmentant. Ce qu'on remarque, en tout cas, c'est qu'on a de plus en plus de saisines sur le premier degré, sur les écoles, et on en a moins sur le lycée. Et je pense que les jeunes au lycée ont plus de mal à parler de la situation qu'ils vivent, notamment s'ils l'ont vécu déjà à l'école primaire, au collège, au lycée. Ils vont être souvent dans des situations où ils n'ont plus confiance. Ils ont l'impression peut-être d'en avoir parlé et que ça n'a pas réglé le problème. Et on va avoir, alors à la marge, hein, c'est 2-3 dans l'année, mais c'est des dossiers qu'on prend en compte également, des jeunes qui ont quitté le système scolaire et qui vont faire un témoignage de leur vécu pendant leur scolarité.
Juste une question, quand vous parlez de saisine, c'est quoi exactement?
Alors, on a plusieurs portes d'entrée. On a plusieurs portes d'entrée c'est-à-dire pour qu'on nous interpelle. Quand je dis saisir, ça veut dire on va nous interpeller, nous, les référents départementaux. Donc, on a le 30-20. Ça, c'est une saisine très particulière. Au tout début, pour l'anecdote quand même, on se croirait à l'époque, au tout début, on avait l'impression d'être un peu dans Mission Impossible c'est-à-dire le fichier qui s'auto-détruit dans les 24 heures si on ne va pas le chercher sur un... C'est un canal très crypté, très sécurisé. Seuls les référents départementaux avaient accès aux fiches du 3020. Donc, c'est une fiche de signalement qui nous arrive via nos boîtes mail. Mais à l'époque, c'était vraiment un chemin très, très sécurisé, très crypté. Aujourd'hui, ils ont, on va dire, amélioré les choses et facilité l'accès, mais il est toujours sécurisé. Donc, quand une famille appelle au 3020, ou un enfant, ou un jeune, donc le 3020 fait un petit peu un filtre. Donc, il y a des situations où le conseil du 3020 va suffire et d'autres où ils estiment qu'il va falloir mobiliser les référents départementaux. Donc, dans ce cas-là, on reçoit via nos boîtes mail une alerte. Alerte, signalement, harcèlement. Et c'est en allant donc avec nos codes sécurisés sur la plateforme qu'on va découvrir à qui appartient cette fiche signalement. On a très, très peu d'informations. On a en général le nom de l'appelant, le nom de l'enfant et son école, et il est juste coché si c'est un harcèlement moral, physique, ou moral, physique, verbal, ou cyberharcèlement. Et donc, il nous appartient à nous, ça fait partie de notre procédure départementale. Donc, j'avais dit qu'on était trois. Donc, Madame Potin, Charline Potin, qui fait partie de ce qu'on appelait avant le GAPAS, et aujourd'hui on dit équipe mobile de sécurité, elle est référente départementale harcèlement avec nous depuis quelques années. Son travail, c'est d'appeler la famille. Comme on a très très peu d'informations, on va être d'abord à l'écoute du jeune et de sa famille. Madame Danous, qui est l'inspectrice chargée de l'orientation et de l'affectation, référente également harcèlement, son travail, c'est dès que Charline Potin a appelé la famille et nous a donné le feu vert, parce qu'on a besoin de l'accord de la famille pour enclencher l'action. La famille, elle peut très bien dire « Non, moi, c'est bon, je ne veux pas que vous interveniez. » Ça arrive. Hein. Mais si elle, en général, ils nous donnent leur accord, Madame Danous va demander un rapport circonstancié au chef d'établissement. Clairement, elle demande des comptes. Qu'est-ce qui a été fait? Quelle action a été mise en place? Pourquoi en gros on est saisi, qu'est-ce qui se passe comme difficulté et est-ce qu'ils ont besoin d'un appui? Et moi, quand c'est en collège et lycée, je ne peux pas le faire pour le premier degré, pour les écoles, mais quand c'est en collège-lycée, j'interpelle l'assistante sociale pour savoir si elle connaît la situation de l'enfant, si elle a été interpellée par l'établissement et qu'elle me fasse part, elle aussi, de sa version des faits, de l'action qu'elle a mise en place. C'est le croisement de ces trois portes d'entrée, c'est-à-dire la famille et le jeune, le chef d'établissement et son équipe, l'assistante sociale, qui va nous permettre à nous de qualifier si le harcèlement est avéré ou pas. Et en général, on se met toujours à disposition pour un appui, surtout que lorsque la famille nous fait part qu'elle n'est pas entendue, qu'elle n'a jamais été rencontrée par chef d'établissement. Alors, ça nous arrive de nous déplacer pour venir en appui à l'équipe. Et quand on se déplace, on rencontre l'équipe pour voir tout le monde et recueillir l'information, mais on va surtout dérouler le protocole harcèlement, c'est-à-dire l'écoute des témoins, directs ou indirects, l'écoute de la victime d'ailleurs en première instance, l'écoute de la victime, l'écoute des témoins, directs ou indirects, et l'écoute des auteurs désignés. Donc le 30-20, c'est vraiment un protocole très spécifique où on est dans l'obligation de faire une réponse à la famille, écrite, signée de l'inspecteur d'académie. Mais on n'a pas que le 30-20. Il nous arrive aussi d'être saisi par la... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sigle, la DIPEL, Division Parcours de l'élève, qui est un service de l'inspection académique. Et eux, par exemple, vont nous saisir de tous les courriers famille où la famille demande une dérogation au motif de harcèlement. Eh bien, on ne va pas systématiquement appeler la famille dans ce cas-là. Les coups de fil qu'on reçoit, les mails qu'on reçoit, les courriers qu'on peut recevoir, il y a des familles qui écrivent au ministre, au recteur, ça redescend à l'inspecteur d'académie et donc ça nous est attribué. Là, on ne va pas systématiquement appeler la famille. Par contre, on va systématiquement demander un rapport au chef d'établissement. Je mobiliserai l'assistante sociale et on fera une réponse à la famille. C'est-à-dire que chaque situation, quelle que soit l'entrée, chaque fois qu'on nous interpelle, on ne peut pas nous dire « c'est pas du harcèlement » sans avoir déroulé une autre procédure départementale. Et quand il y a besoin, on va sur place dérouler le protocole que normalement l'établissement aurait dû dérouler.
Une chambre vide, tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent, que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre, la solitude qui mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact, une promo sans traque, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sage, soit l'envie de se laisser par le coup pendu. Pour punir les parents qui pour aimer l'enfant ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise dans 6 ans, sentiment en ciment. Sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui des qui l'on se moqueront comme Coluche. Ou bosse dans le hall, au groupe massif, lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses de rue couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père, c'est dur, même si la mère persévère, ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère, c'est pire, demande à Pitch, t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce, heureux c'est pas son beau-père. L'enfant seul, c'est toi, eux, lui, elle. Oxmo Puccino, voix de Niel. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, très chère Flavie ?
On vient d'écouter Enfant seul de Oxmo.
Puccino, exactement, l'une des plus belles plumes d'histoire de la français, clairement. Flavie, toi aussi, tu as contribué à l'interview de Madame Antoniès avec Louane. Vous avez écrit vous-même les questions, hein, c'est tout bête, mais c'est pas ami auditeur-auditrice, je vous transforme la vérité. Flavie ?
Ouais, c'est vrai, c'est nous, on a travaillé.
Merci, c'est vous qui avez travaillé. Moi, j'ai rien fait, même. Tu peux le dire, j'ai rien fait. Plus sérieusement, cette personne qui, on rappelle, est référente sur le harcèlement scolaire pour le département et pour l'inspection académique, tu l'as rencontrée pour la première fois, tu l'as découvrée. Comment t'as trouvé ce moment, toi, avant d'écouter la troisième et ultime partie en sa compagnie?
Ah, c'était bien. C'était instructif. Et
t'as tout compris, les mots qu'elle utilisait, l'attitude, le ton qu'elle en... Enfin, comment t'étais avec...
Enfin, ouais, au début, j'étais stressée. Après, elle nous a mis à l'aise. Enfin, il y a eu un bon feeling. Après, des mots, j'avais pas compris. Du coup, je lui ai posé des questions. Je l'ai interrompu pour savoir ce que ça voulait dire. Mais sinon, en soi, ouais, c'était bien.
Eh bah, t'as carrément bien fait, parce que quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, la meilleure des solutions, c'est quand même d'interpeller la personne et demander explication et éclairage. En tout cas, moi, j'étais témoin de la chose, amis auditeurs, auditrices. Soyez-en aussi témoins. Tout de suite maintenant, la troisième et dernière partie avec Madame Antouniès. Merci, très chère Flavie. Vous avez assuré, toi, Louane. On écoute le travail, le fruit de votre travail, tiens. Tout de suite maintenant, la troisième partie.
Quelles sont les solutions? Avez-vous des exemples?
Alors, dans les solutions, il arrive parfois, quand je disais, normalement, l'établissement aurait dû dérouler. Aujourd'hui, les établissements sont dans l'obligation d'avoir un plan d'action, un plan de prévention du harcèlement au sein de leur établissement. Parfois, ils l'ont fait, mais la famille, malgré toute la mobilisation qu'a eu l'établissement, n'entend pas. Parce qu'on peut leur avoir renvoyé, par exemple, ce n'est pas du harcèlement et c'est compliqué pour la famille de voir leur enfant souffrir et d'entendre que ce n'est pas du harcèlement. Donc, quand nous, on va arriver dans la solution, par exemple, c'est notre appui. Alors, depuis 2 ans, on appelle ça l'équipe réseau d'intervention départementale. Ça fait partie des 10 nouvelles mesures de lutte contre le harcèlement. Quand l'équipe des personnels de l'inspection académique vont se déplacer, c'est pas qu'on va faire mieux que l'école. On va faire, on va dire, avec du recul. Nous, on connaît pas l'élève, on connaît pas l'établissement, donc on arrive avec un regard neuf. Et juste le fait que ce soit l'inspection académique qui intervienne, c'est une reconnaissance pour la famille et pour l'élève. Nous, on part toujours du ressenti. On peut ne pas qualifier la situation de harcèlement. Mais le ressenti de l'enfant, c'est d'être harcelé. Et on va partir de ce ressenti. Alors, dans les actions, vraiment, je pense que vraiment ce qui est important, c'est l'écoute, déjà, de la victime. Ça, c'est vraiment très important. Nous, on n'est pas trop pour les sanctions des auteurs, on est plus pour des sanctions éducatives. Parce que punir pour punir, on ne va pas éviter la récidive. Donc parfois, amener les auteurs à travailler sur le harcèlement, à faire un exposé, à préparer une exposition, ça peut donner plus de sens sur « Ah oui, ce que j'ai fait là, ça a fait souffrir mon camarade ». On a aussi une nouvelle méthode qui se développe, s'appelle la méthode PICAS. Donc, on en parlera si vous voulez un petit peu plus tard. Mais du coup, on forme. Nous, notre gros travail aussi des référents départementaux, c'est de former, de sensibiliser les enseignants, les CPE, les assistants sociaux, les infirmières, les PSIEN, toute la communauté. Et moi, j'interviens beaucoup aussi dans des conférences à destination des parents. Voilà, parce que le terme de harcèlement, je n'engage que moi quand je dis ça, mais je suis pas toute seule. Je trouve qu'il a été mal choisi, parce que dans la tête des adultes, ce terme-là, il fait référence à notamment au harcèlement sexuel en milieu professionnel ou harcèlement moral en milieu professionnel. Ça fait référence en tout cas à une problématique d'adulte. Quand on est chez les jeunes. Je trouve qu'il est pas bien, enfin, il a été mal choisi. On va être surtout sur une problématique de rejet, de mise à l'écart du jeune, d'humiliation, de brimade. Ce que certains, d'ailleurs, adultes de l'institution au départ appelaient « Oh, ce n'est que des chamailleries ». Non. même des chamailleries, ça peut faire mal. Voilà. Et donc, des fois, il faut y réexpliquer un petit peu aussi aux parents, aux adultes, quand on vient en formation, c'est quoi exactement le harcèlement ? Qu'est-ce qui se joue aussi pour le témoin qui contribue aussi parfois à ce que la situation perdure en étant spectateur sans agir, mais toute sa culpabilité aussi parce qu'il ne peut pas agir des fois. Parce que ça peut un témoin, il peut se dire aussi ça va se tourner vers moi. Voilà. Donc c'est, je dirais, l'écoute, vraiment beaucoup l'écoute pour nous. Et on n'a pas la baguette magique. On n'a pas la solution magique, mais il est arrivé que parfois on soit obligé de proposer le changement d'établissement pour la victime, pour la protéger. Notamment, je pense, quand c'est des images diffusées sur les réseaux sociaux. Voilà.
À tout hasard, dans votre vie privée, avez-vous eu à utiliser vos connaissances et vos expériences ?
Alors moi, j'essaye vraiment de faire la coupure entre privé et professionnel. D'ailleurs, j'habite très loin, c'est pas pour rien. Voilà, c'est une coupure aussi de distance, hein, puisque j'habite dans les Yvelines. Mais bien sûr, il arrive, voilà, il y a toujours dans le cadre privé quelqu'un qui vient vous demander conseil pour une situation. Alors, beaucoup protection de l'enfance, puisque j'ai aussi cette double casquette. Mais par rapport au harcèlement, ça m'est déjà arrivé. Alors, je dirais un petit mélange de privé et professionnel, c'est-à-dire des personnels de l'institution qui vont m'interpeller pour leurs propres enfants ou pour les enfants de quelqu'un de leur famille. Donc, à partir du moment où on est sur un champ, on va dire, même si c'est un collègue, mais du coup, on a travaillé ensemble, je peux pas... C'est difficile pour moi d'intervenir si je travaille avec cette personne. Du coup, il n'y a plus cette neutralité. Du coup, en général, on essaie d'en renvoyer la personne, d'orienter vers d'autres relais. Ce qui tombe bien, c'est qu'on est trois. Voilà. Donc, ça peut aider.
Vous rappelez-vous d'une situation qui a abouti positivement à nous partager ?
Alors, nous, on intervient vraiment sur des situations très compliquées. Je vais essayer de... C'est-à-dire que nous, quand on intervient, c'est pas pour rien qu'on a choisi les conseillères techniques services sociaux. Il y a un mélange entre harcèlement et, on va dire, une situation sociale un petit peu complexe. Donc, je dirais, dans celles qui ont, pour moi, celles qui peuvent aboutir, c'est aussi celles où, du coup, le devant de la scène, c'est le harcèlement qui est mis en avant par la famille et le jeune. Et en entrant par cette porte, on va pouvoir accompagner, aider la famille sur une dimension, on va dire, plus complexe. Je me souviens, par exemple, d'une situation où la famille faisait état d'une situation de harcèlement que vivait leur enfant au sein de l'école. C'était plus les parents et surtout la maman qui, on va dire, tous les soirs interroger l'enfant. C'est très facile, hein. Quand le parent, comment s'est passée ta journée, ça a été dans le cours d'un tel, enfin, en gros, l'interrogatoire du soir, il y aura toujours quelque chose, on va dire, d'un peu compliqué dans la journée. Je ne pense pas qu'il y ait une journée parfaite, ou tout au moins s'il y a une journée parfaite à l'école, comme nous au travail, elle reste à la marge. Dans la journée, il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Et ses parents, cette situation, la maman, dès qu'il y avait une petite chose de négatif, faisait un mot dans le carnet, téléphonait à la direction, et avait le sentiment que personne ne faisait rien, au point d'ailleurs qu'elle a plus ou moins déscolarisé son enfant pour le protéger. Et ça arrive souvent aussi, des enfants qui se retrouvent déscolarisés, soit parce qu'ils ont peur, eux, d'aller à l'école face à ce qu'ils vivent au quotidien, soit les parents qui s'emparent, on va dire, de cette problématique ou qui la qualifient, eux, d'harcèlement, mais ce n'est pas vraiment le ressenti de leur enfant. Et dans cette situation, dans le cadre des rencontres qu'on a pu avoir, parce que du coup, on a rencontré les parents, on a rencontré le jeune, on a rencontré l'équipe, on a déroulé le procédure, Et dans la rencontre avec la deuxième rencontre, parce qu'on fait toujours une rencontre au début avec les parents et une rencontre dans la restitution. C'est-à-dire qu'on va après dire aux parents, on leur explique ce qu'on va faire et après on va leur dire un peu ce qu'il en ressort de tout ce qu'on a fait. Et dans cette restitution, on a fait un entretien, on va dire qui a dérivé un petit peu sur l'entretien psychologique où la maman s'est effondrée en pleurs, a pu faire part d'éléments confidentiels de son histoire, avec une forte angoisse liée à un événement traumatique dans la famille. Et du coup, c'était cette angoisse qu'elle reportait sur l'enfant qui lui-même se retrouvait en difficulté dans ses relationnels avec les pères. Donc, on a pu, voilà, une des actions, ça a pu être d'orienter cette famille, cette maman, vers un suivi psychologique, vers le service social départemental qui a pu appuyer avec une mesure éducative. Et donc, cet étayage autour a permis... Alors, l'enfant s'est reconstruit quand même dans un autre collège, parce qu'à un moment donné, il s'était retrouvé quand même, lui, en mise en difficulté. Mais ça, tout ça, ça s'est fait à l'amiable et il peut se reconstruire. Nous, ce qu'on dit toujours aussi dans les actions, c'est un suivi psychologique conseillé pour l'enfant. Parce qu'un enfant victime de harcèlement, en tout cas qui le ressent en tant que tel, va avoir, on va dire, un impact sur son estime de soi, sa confiance en lui. Et il va falloir effectivement tout un travail pour que lui se sente un peu plus fort à l'intérieur du même et développe ce qu'on appelle des compétences psychosociales pour, quelque part, entre guillemets, se défendre. Ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve harcelé. Les harceleurs choisissent leur proie, la faiblesse, la blessure d'un enfant, d'un jeune, et vont agir dessus. Donc, c'est important de réparer. C'est important de consolider, on va dire, les choses, parce que quelqu'un de harcelé, on le voit, beaucoup de parents ont eux-mêmes un vécu de harcèlement à l'école et cherchent une réparation. Donc, c'est-à-dire, quelque part, on pourrait imaginer qu'un enfant aujourd'hui harcelé pourrait, vis-à-vis de ses enfants, développer aussi une stratégie qui fait que l'enfant va se retrouver dans cette situation-là aussi.
Vous avez quelque chose à rajouter ou pas?
Alors moi, j'ajouterais, alors, pour faire un petit peu, enfin, je pense que c'est important de le dire, dans le département de l'Eure, au niveau national, il y a un prix, Mobilisons-nous contre le harcèlement, qui est organisé chaque année depuis maintenant 8 ou 9 ans même. Donc un prix où des élèves, aidés par des adultes, font effectivement une affiche, une vidéo qu'ils présentent à ce prix-là. L'Eure a été vraiment un département très, très engagé dans ce prix, avec récompensé à plusieurs reprises, même au niveau national. Et il y a aussi, dans les moyens qu'on déploie autour de la formation, il y a une formation pour les élèves délégués qui s'appelle « On peut devenir ambassadeur harcèlement ». C'est des élèves qui vont aider au repérage et à la prise en charge des situations. Il y a des élèves aujourd'hui qui ont pu être récompensés, qui sont très acteurs aussi de la sensibilisation. Je pense que vous avez dû entendre parler de la vidéo Cassandra. Voilà. Cassandra, c'était des élèves de Jean Rostand, de Jean Jaurès. Et bien, avec ces élèves-là, ça a été jusqu'au Québec, ces élèves-là vont vers les parents, vers les enfants, vers les adultes de la communauté, pour sensibiliser avec leur support à cette question du cyberharcèlement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on développe surtout la formation. Très honnêtement, on intervient moins sur le terrain parce qu'on a formé des personnes ressources sur le terrain. Mais le contexte actuel a mis un petit peu en difficulté cet axe formation. Mais on fait carrément ce qu'on appelle des stages sur site. C'est-à-dire, on va dans un établissement et on forme les professeurs, l'équipe de direction, les personnels ressources de l'établissement. Et c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Après, malheureusement, il y a encore des situations qui passent au travers des mailles du filet. Donc moi, je dirais surtout, le message, c'est qu'il faut en parler.
30-20, on rappelle.
Voilà, le 30-20, plateforme ou la boîte mail, donc harcèlement27@ac-rouen.fr. Voilà. Il faut en parler, il faut briser la loi du silence, c'est important.
Merci,
merci.
Merci, Madame Antounès.
Au nom du groupe, je souhaite remercier Madame Antounès d'avoir été là avec nous, d'avoir pris la chose avec un tel sérieux, d'avoir pris à cœur cette interview. Et sur ce, je vous laisse avec la deuxième partie des micro-trottoirs.
Pour vous, quel est le plus répandu ?
Bah, disons plus sur les jeunes et les moins jeunes, quoi, ça dépend l'âge. Puis ça dépend aussi des coupes aussi. Hein.
Non, moi je me dis moral d'abord, déjà. Physique aussi, parce que quand j'entends les jeunes, ils sont harcelés par la main, les coups de poing, des chires, on fait tirer les cheveux par-ci, par-là.
Je pense que c'est le harcèlement sexuel, hein. Ouais. Pour les femmes, ouais. Ouais.
Le plus grave, c'est l'harcèlement sexuel. Hein. Sinon, le plus répandu, c'est l'harcèlement physique.
Ça doit être le harcèlement scolaire, quand on est jeune.
Et le harcèlement le plus courant, bon, je dirais, c'est plus au niveau des machos, les hommes envers les femmes. Les
le sexisme.
Voilà, le sexisme, voilà, exactement.
Ouais.
Quel est le
plus répandu ?
Le plus répandu, ah, bonne question. Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Ben, je ne sais pas, à dire vrai. Je dirais que les deux sont à égalité. Je dirais.
Peut-être qu'actuellement, le harcèlement qui est le plus répandu et j'ai envie de dire le plus facile, c'est le cyberharcèlement, puisqu'on on peut être caché derrière un ordinateur et puis envoyer des messages ou des insultes ou des photos. Après, les différents types d'harcèlement, oui, bah, je pense que c'est dans les cours d'école, à la sortie des collèges, tout ça. On est dans des moments où c'est assez facile d'attraper une personne à plusieurs et puis de recommencer tous les jours, pour mettre un peu la pression.
Tu sais, à mon époque, c'était plus simple. On n'avait pas d'internet, on n'avait pas de réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que quand on avait un différend avec quelqu'un, en fait, on avait juste peur d'aller à l'école, tu vois. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tellement de réseaux sociaux que, en plus de ça, vous vous faites harceler. Plus l'école, plus les réseaux sociaux, c'est infernal en fait.
Mais c'est vrai que le harcèlement, je pense, verbal, entre parenthèses, il est peut-être plus dur pour les gens que physique. Ouais. Bon, physique, ça fait juste que ça fait mal. Ouais. Mais voilà, ça va dépendre des gens.
Le plus répandu, c'est dans les écoles. Là, le harcèlement, comme si les élèves se tapent, se chamaillent et tout.
Oh bah le harcèlement maintenant avec les réseaux sociaux, hein.
Ah oui.
C'est ça qui a foutu le bazar.
Selon vous, quelles sont les solutions pour lutter contre le harcèlement ?
Bah déjà punir tous ceux qui font ça, déjà parce que je trouve qu'ils sont pas assez punis. Et puis bon, prévenir les jeunes, c'est pas évident parce qu'ils peuvent être surpris sur certaines personnes. Ça peut être de la famille, ça peut être n'importe qui. Hein.
Lutter, ça on peut. Bon, là, c'est le gouvernement, hein, le gouvernement, tous. Plein de choses, donc tous ces gens-là. Donc il y a le gouvernement d'abord, le ministère de l'éducation déjà, et il y a aussi de l'enfance, tout ça, donc tous ces gens-là. Mais c'est le gouvernement d'abord.
Le dialogue, l'explication, enfin l'échange, voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver peut-être à diminuer le harcèlement. Mais bon, pour certaines personnes, ça va être difficile à assimiler, je pense. Le harcèlement, c'est vaste, hein, y a tellement de harcèlement que voilà. Mais je pense que par le dialogue, l'information, du répressif aussi, certainement. De toute façon, on ne peut pas faire autrement.
Oh là 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 là, c'est de l'école. Là. Qu'est-ce qu'il faut lutter ? Bon ben il faut faire de la prévention, hein, avant tout. Expliquer que ça n'apporte rien et que. Il y a d'autres façons de faire. Quoi.
La communication, je pense, ça c'est un outil important. Et l'éducation qui vient des parents. Parce que généralement, les enfants qui créent un petit peu le harcèlement, ils ont des parents qui les initient aussi un petit peu à ça. Ça vient aussi de certaines valeurs. Par exemple, faut pas que tu côtoies telle personne ou d'autres personnes comme ça.
On vit pas dans un monde parfait, donc à mon avis, il n'y a aucune solution. Il faut que chacun y mette du soi.
Ah! Alors déjà, une prise en compte au niveau de l'État, que l'État fasse des choses, mette en place des choses. Et puis que si on est témoin, justement, comme vous disiez tout à l'heure, ben on réagisse et on s'interpose.
ne pas trouver plaisir à harceler les autres, parce que les harceleurs ont plaisir à faire ça. Hein. Tant qu'ils vont trouver plaisir, il n'y aura pas de solution. Hein.
Ouais.
Ou alors une punition très lourde, mais vraiment très lourde. Et puis, de toute façon, il y a bien des harceleurs qui passeront à l'as. Hein.
Je dirais la vigilance, et puis la vigilance des adultes, surtout dans les établissements scolaires, et puis surtout aussi le franchir le pas quand on est victime d'aller parler, d'aller le dire en fait. Le harcèlement, on doit pas se sentir coupable quand on est harcelé, on doit forcément essayer d'aller inverser la tendance et puis d'aller voir, il y a forcément un adulte quelque part ou un copain qui va être bienveillant à ça et qui va pouvoir tendre la main pour aider. Donc vraiment pas rester dans le silence quoi.
Alors ça dépend, parce que le harcèlement ça se passe en général à l'école. Moi je serais pour l'uniforme en fait, ça éviterait la raquette de la marque la plus forte, enfin voilà. Moi je serais pour l'uniforme, comme ça il n'y a pas de raquette, tout le monde est au même niveau en fait.
Un peu plus de tolérance,
ouais.
Un peu plus de discussion.
Ouais.
C'est-à-dire que lui, de sortir de sa voiture et tout de suite s'énerver. Ouais. Voilà, un petit peu, voilà, je pense que les gens, faut qu'ils se calment, ils apprennent à se calmer.
Ouais.
Mais en ce moment, c'est difficile.
Ouais.
Mais bon, il y aura toujours une raison en France, c'est
ouais,
ça le vrai.
Ouais,
si c'est pas le Covid, ça sera autre chose.
Ouais.
Donc il faut se détendre un petit peu. Si c'est on a tapé une voiture, on va pas en mourir. On fait un constat, je sais pas, s'il y a un truc qui va pas dehors. Voilà, les gens ont du mal à discuter, c'est ça qui est bête.
La fermeté, le respect de la loi, faire en sorte que, disons, les harceleurs comprennent qu'il y a des limites à ne pas dépasser, et surtout l'éducation. Je pense que tant que on n'assurera pas une éducation complète de notre jeunesse, bien, il y aura toujours des harceleurs. Mais effectivement, c'est la fermeté qui doit prévaloir.
Déjà, les directeurs, directrices, déjà se plaindre direct vers eux, faire le nécessaire pour calmer les élèves,
ouais.
Trouver une solution et tout.
Ça dépend quel harcèlement. Si c'est le harcèlement à l'école, il faut que l'éducation nationale prenne ça en charge, parce qu'à mon avis, ça vaut l'eau, hein, il faut absolument rien, surtout pas de vagues,
ouais.
Entre parenthèses. Et puis pour harcèlement des gens, faut prendre des sanctions vis-à-vis de ces gens-là, et puis c'est tout.
D'accord. Bon, merci beaucoup, madame.
Vous en prie, monsieur.
Une très bonne journée.
Utile,
ouais, au revoir.
Bon, vous nous avez rejoints en cours, nous sommes Flavie, Tom, Mohamed et moi, Louane. Nous avons entre 13 et 15 ans. Nous avons fait une interview avec Madame Antunes et des micro-trottoirs avec mes camarades autour du harcèlement. Merci, on espère que vous avez passé un agréable moment. Restez à l'écoute de la suite des programmes du Principe Actif. Bonne journée.
Bah ouais, au revoir. Hey, salut. On a envie de dire au revoir, Flavie. On peut dire au revoir.
Ouais, au revoir.
Au revoir, Tom, je t'ai pas entendu.
Au revoir.
Bah voilà, hey, Louane.
Au revoir.
Au revoir. Et merci de votre attention. Mine de rien, 13-15 ans, 55 minutes sur le sujet du harcèlement. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. En tout cas, sous les miens. Allez, bonne journée. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.